Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour, aujourd'hui on est avec Nicolas Bergerot de l'Atelier des Chefs. Alors bonjour Nicolas.
Bonjour.
On a l'habitude de commencer le podcast par une dégustation. Alors là aujourd'hui on va pas faire dégustation parce qu'on a eu encore une chance plus forte, c'est qu'on a eu l'occasion même de suivre un cours de cuisine et de pratiquer de la cuisine.
C'est
très, ouais, c'était très très bon
c'est
et de déguster
normal, c'est
derrière.
C'est vous qui l'avez fait, donc c'est pour ça que c'était si bon.
Merci à toi. Donc première question dans cette conversation qu'on va avoir là tous les trois. Première question rituelle, pourquoi la bouffe? Comment tu t'es arrivé?
Avant de démarrer avec cette question-là, pourquoi on laisse Nicolas se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas? Je pense que ce sera une bonne occasion.
Alors, je m'appelle Nicolas Bergerot, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. Et je suis donc l'un des 3 fondateurs de l'Atelier des Chefs.
Super.
Alors pour revenir à la question, pourquoi la bouffe? Je crois que c'est une passion de jeunesse. Tout petit, je cuisinais, je rêvais de faire une école hôtelière que je n'ai pas faite. Parce que mon cher père m'a dit, t'as des capacités, va donc faire une vraie école de commerce. Ouais. Donc je suis allé faire une vraie école de commerce et puis en sortant quand même, j'avais vraiment envie de revenir vers la bouffe. Donc par des chemins détournés, 3 ans de L'Oréal, puis 9 ans de Nestlé, je suis arrivé à créer l'Atelier des Chefs en 2004.
Oui, donc t'étais déjà... C'était déjà un peu dans l'univers.
J'étais déjà
food,
dans l'univers
alors,
et d'autant plus que chez Nestlé, j'étais chez Nestlé Restauration, donc la division food service de Nestlé, celle qui travaille avec des chefs pour les chefs, pour le monde de la restauration. Et là, j'ai travaillé en France, à Dubaï et à Toronto pour Nestlé Food Service.
Et une question, à ton époque, quand tu as fait ton école des commerces, tu pensais déjà à travailler dans l'univers de la food
ou... Oui, c'était un rêve. Je ne l'avais pas encore bien construit. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais quand même fait le concours de cuisine des grandes écoles. Donc, c'était un petit truc qui me tenait à cœur. En sortant de l'école, d'ailleurs, j'ai voulu aller travailler dans l'hôtellerie, mais c'était en 92, début 92, la crise d'après la guerre Iran-Irak, et donc pas beaucoup de jobs dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et puis en plus, à ce moment-là, les HEC, on ne trouvait pas beaucoup de jobs dans la restauration parce qu'on nous disait « Ouais, vous voulez faire que de la stratégie, pas de l'opérationnel », ce qui n'était pas complètement faux d'ailleurs. Et donc, je n'avais pas trouvé le job de mes rêves. Donc, j'ai fini par aller chez L'Oréal, où j'ai passé 3 années super à apprendre l'innovation.
Quel produit et quelle catégorie.
J'ai travaillé pendant un an sur les déodorants Menen, un an sur les mousses à raser Menen et ensuite un an sur les shampoings Elsev.
D'accord.
Donc, ça m'a appris plein de choses en market, en rigueur, en présentation. C'était 3 ans d'une densité incroyable, super école. Et puis après, quand même, je suis retourné mes premiers amours vers la cuisine. Et quand je suis parti chez Nestlé, je voulais pas aller chez Nestlé grand public, je voulais vraiment aller chez Nestlé Restauration. Et ça a été le début de mon recadrage vers la restauration.
C'est qui est rare, les gens souvent ils veulent plutôt aller vers les produits.
Absolument, à tel point que même quand j'ai dit chez Nestlé que je voulais aller chez Nestlé Restauration, on m'a dit ah bon, vous voulez aller chez Nestlé Food Service, d'habitude personne ne veut jamais y aller.
Oui.
Bon. Et ben moi je voulais y aller.
Là, il y a la vocation.
Parce que moi c'est ça qui m'amusait et j'y ai passé 3 années super à Paris, ensuite 3 années super à diriger la filiale à Dubaï et ensuite même chose à Toronto. Jusqu'à ce que le 10 décembre 2001, très précisément, j'ai l'idée de l'Atelier des Chefs.
Comment c'est venu?
Je venais de m'installer à Toronto, donc et moi pour m'installer quand je m'installe dans un pays, j'ai envie de m'immerger dans la culture. Et moi pour m'immerger dans la culture, ce qui compte c'est la bouffe. Donc je suis allé dans une boutique qui s'appelle The Cookbook Store, qui n'existe plus maintenant, mais qui vendait que des bouquins de cuisine parce que je voulais m'acheter des livres de cuisine canadienne pour pouvoir faire de la cuisine canadienne.
C'est quoi des plats typiques de la cuisine canadienne?
Un qui est très très connu qui s'appelle la poutine.
Ah, oui, forcément, oui, Québec.
Des frites, des frites, du fromage fondu et du gravy dessus, donc c'est très très bon. Sinon, la cuisine canadienne, objectivement, elle n'est pas très typique. On ne connaît pas plus que ça. Il y a le sirop d'érable, évidemment, comme produit assez mythique. Bon. Mais toujours est-il que, justement, je voulais essayer de m'inspirer un peu. Et dans cette boutique du Cookbook Store, le libraire avait préparé un plat. Et comme on était le 10 décembre, c'était un plat chaud. Et donc, il faisait goûter le plat. Et j'ai mis vachement bon votre plat. Il me dit, si vous voulez le refaire chez vous, achetez le bouquin et comme ça, vous pourrez le refaire. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la cuisine, c'est un truc qui se fait, qui se partage, qui se montre. Et il faut monter un business dans ce thème-là. Et donc, j'ai tout de suite appelé mon frère, qui lui fait partie de cette génération qui ne sait pas cuisiner parce que maman ne m'a pas appris.
Je connais bien le problème.
Voilà, en l'occurrence, c'est très ingrat parce qu'on a la même mère, vu que c'est mon frère. Moi, je sais très bien qu'elle nous a appris à cuisiner. Mais toujours est-il que lui ne savait pas du tout cuisiner, mais que lui, il voulait monter une boîte. Ah. Lui était entrepreneur, il voulait monter une boîte.
Lui était en France ou il était au Canada aussi ?
Non, il était en France. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. Il m'avait déjà pitché sur plein de sujets de création d'entreprise sur lesquels on avait été plus ou moins loin. Et bon. Puis là, on a eu envie de bosser ensemble.
Food, pas forcément food.
Il y avait eu un moment, un projet food, juste quelques années avant, il y avait eu la crise de la vache folle. La crise de la vache folle avait sérieusement attaqué le secteur de la viande.
Ouais.
Et François avait eu l'idée de se dire, et c'était assez précurseur d'ailleurs au début des années 2000, assez précurseur de se dire, on va intégrer la production, enfin la viande sur toute la chaîne du pré à l'assiette.
Ouais.
Faire de la production, racheter un réseau de boucherie et intégrer verticalement la filière.
Ce qui était assez précurseur.
On voit que maintenant les circuits courts, c'est ni plus ni moins que ça. Bon, et puis on n'était pas allé au bout parce que là, pour le coup, il fallait qu'on devienne éleveur, écarisseur, boucher, distributeur. Enfin, il y avait
plein de métiers différents.
Choses, moi. Mais toujours est-il que voilà, on sentait déjà, il est beaucoup plus jeune que moi, François, il a 8 ans de moins que moi, mais on sentait qu'on avait envie de bosser ensemble. Et là, sur ce projet, on a enclenché. Donc, 10 décembre 2001, l'idée.
Ouais.
On a ouvert finalement le 12 juillet 2004.
L'idée, c'est déjà l'idée de l'atelier des chefs, celle qu'on connaît aujourd'hui.
Non, l'idée, c'était vraiment, en sortant de cette boutique qui vendait des bouquins de cuisine, en fait, je voulais créer un espace dans lequel on pouvait acheter des produits d'épicerie, des bouquins et des ustensiles de cuisine, mais où on pouvait tout essayer avant d'acheter.
Donc, on n'est pas encore sur le cours de cuisine.
On était complètement dans le commerce. Et justement, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait un concept qui était en train de naître en France qui s'appelait du bruit dans la cuisine.
Ouais.
Et qui était exactement sur notre territoire. Donc, on s'est dit, un, c'est bon signe, ça veut dire que c'est une bonne tendance. Mais deux, trop tard, le mec, en plus, il avait plein de sous pour aller ouvrir ça, donc on était un peu en retard. Et puis surtout, c'était un vrai métier de commerçant. Et nous, on avait plutôt fait du market, de la strat, etc.
En arrière un petit peu, toi, tu étais toujours au Canada ou tu as quitté
je venais d'arriver au Canada.
Tu étais un poste encore.
Je suis pas parti la fleur au fusil en me disant, je vais réfléchir. Non, je dis à François, moi, je reste au Canada, toi, t'es en France, on réfléchit ensemble. Et puis, quand on est prêt, je rentre.
Okay. Voilà, l'idée, c'était de le lancer en France.
Exactement. C'était le lancer en France. Alors, évidemment, les Canadiens, les Américains que j'ai pu rencontrer me disaient « Mais pourquoi tu ne le lances pas chez nous ? C'est plus simple. On est plus libéraux, machin et tout. » OK, la bouffe, c'est la France.
Ouais.
OK, donc pour moi, c'était un concept qui avait vocation à revenir éventuellement au Canada et aux US. On y reviendra, mais qui devait être basé en France. Et donc, on a travaillé à distance de décembre 2001 à l'été 2003.
D'accord.
L'été 2003, j'ai dit à Nestlé qu'il fallait me ramener en France, que j'avais le mal du pays. Donc, ils m'ont retrouvé un job en France qui était un gentil placard parce qu'ils n'avaient pas prévu que je rentre. Mais c'était très bien parce que comme ça, j'avais un peu de temps plus de mon job placard pour aller monter ma boîte. Et puis, il fallait qu'on trouve des sous, un lieu, un chef.
Ouais.
Et on ne savait pas dans quel ordre. D'accord.
Tu avais déjà travaillé avec ton frère ?
Jamais.
Du tout. Et ça, comment ça s'est passé cette première année et demie à distance ?
Là, c'était une année et demie à distance. C'était compliqué de s'engueuler. Il y a plus de chance qu'on s'engueule. Mais maintenant, c'était il y a 18 ans et on s'est toujours pas engueulé.
Ah bah
donc, ça veut dire que ça fonctionne. Alors, pour la petite histoire, notre histoire, elle est assez space parce qu'on est deux frères, mais en plus, on est mariés à deux sœurs. On est deux frères mariés à deux sœurs associés dans la même boîte. Enfin, voilà. Donc, tout ça rend notre histoire familiale ou professionnelle assez dense, intense et savoureuse.
Bon. Très lié.
Voilà. Chronologiquement, on a créé la boîte le 14 janvier 2004. On a signé le bail de notre premier atelier rue de Penthièvre le 28 février 2004.
D'accord.
On a rencontré ensuite...
Tu quittes Nestlé à ce moment-là ou
non,
pas encore ?
Non, on était encore dans notre job.
Ah, d'accord.
On avait démissionné, mais on était encore en préavis.
Ouais.
Et puis, en plus, on a continué, ils ont gardé à mi-temps moi chez Nestlé et François dans sa boîte. Et on a rencontré Jean-Sébastien Bonpoil, qui est devenu notre chef numéro un et associé en avril 2004 à peu près, ou mars 2004.
C'est un ancien du Ritz, hein,
c'est ça ? Ancien du Ritz, il était le bras droit de Michel Roth au Ritz.
D'accord.
Il y a eu un fit immédiat et total. Et qui continue encore aujourd'hui. Et on a ouvert le 12 juillet 2004. Donc après, ça s'est vraiment enchaîné très vite.
Donc ça allait vite.
Ouais. Voilà. Donc premier fonds de commerce, c'était déjà une école des cuisines dans ces formats qu'on connaît aujourd'hui.
Alors le cours que vous avez vécu, la pause déj, un cours
de cuisine. Ça existait déjà en 2004.
On a commencé déjà par ces petits formats très adaptés.
C'est avec cette innovation qu'on s'est lancé sur le marché des cours de cuisine. Il y en avait déjà. Il y avait déjà le Ritz, le nôtre, le Cordon Bleu qui faisait des cours. Nous, pour arriver avec une innovation, on a dit qu'on voulait vraiment faire des cours de cuisine de tous les jours qui s'adressaient aux vrais gens dans la vraie vie. C'est pas très joli en termes de positionnement marketing, mais c'était très, très significatif. Et donc, en arrivant sur le marché avec un joli storytelling de trois mecs qui lancent une école de cuisine, ce qui est assez improbable, et avec une vraie innovation qui était les cours de cuisine en une demi-heure à l'heure du déj et les team building culinaires, on a eu une couverture presse juste hallucinante. Hallucinante.
Et c'était déjà ce format du cours de cuisine où on peut déguster ce qu'on va cuisiner tout de suite après.
Moi, je voulais que tous nos cours soient participatifs, que les gens fassent, ensemble et avec le chef, que ce ne soit pas le chef qui fait devant eux, disant, vous inquiétez pas, c'est très simple. Non, tant qu'on n'a pas mis ses doigts comme ça et qu'on n'a pas coupé avec le couteau, ce qu'on a fait tout à l'heure, ciselé là, on ne sait pas le faire. Donc que les gens fassent, que les gens partagent un bon moment, apprennent des techniques, parce que la cuisine, c'est avant tout des techniques au départ. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une trentaine de techniques de base. Quand on a 30 techniques de base, après, on progresse beaucoup plus vite. Et puis surtout, se marre, quoi. Et on n'était pas encore dans la folie du bien manger. Mais maintenant, 2004, en plus, il y a le bien manger qui est venu se greffer là-dessus, parce que finalement, cuisiner, c'est quand même la seule façon de savoir ce qu'on mange. Au-delà de bien se nourrir, parce qu'on peut cuisiner et manger trop gras. Mais au moins, on est conscient. On sait combien de sel, combien de sucre et combien de gras on met dans ce qu'on mange. Alors, quand on achète un plat cuisiné dans un supermarché ou quand on fait livrer un truc, un plat cuisiné ou un plat cuisiné d'un resto ou un plat d'un resto, honnêtement, c'est pas ce que le mec a fait. Moi, c'est un de mes combats, parce qu'aujourd'hui, nos principaux concurrents, c'est pas tellement les écoles de cuisine, les autres écoles de cuisine. C'est aujourd'hui, mes principaux concurrents, je lui dis, moi, c'est Frichti et Uber Eats.
Oui.
Parce que d'abord, en plus, Uber Eats, ils prétendent, toute leur campagne de pub, c'est « ne vous embêtez pas à cuisiner, on s'occupe de tout ». Et d'abord, on s'embête pas à cuisiner. Et puis en plus, je suis désolé, mais moi, quand je vois une déclaration d'amour supplément bacon comme pub pour Uber Eats, honnêtement, ça me fait gerber. Voilà, je
dis. Bah, juste pour faire un point par rapport à ces sujets, j'ai vu même une étude d'un cabinet qui s'appelle Digital Food Lab, où ils analysaient en fait que en France, en fait, ils ont mesuré les prix du mètre carré à Paris, à Hong Kong, etc. La taille moyenne des cuisines à Paris, à Hong Kong, à Londres. Et ils ont fait les calculs. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une cuisine ou ça vaut la peine d'avoir un appart plus petit sans cuisine et s'acheter tous les jours chez Deliveroo? Et dans certains marchés, finalement, c'était presque plus d'un point de vue économique, plus viable de se faire livrer tous les jours.
Ça, c'est à court terme.
Ça fait un peu peur.
Oui, quand ils auront les artères bouchées, quand ils auront tout ça, on verra combien ça coûte. C'est pas eux que ça coûtera, c'est à nous en plus. Mais
c'est
que
exactement.
Non, mais c'est une autre vision de la cuisine que nous, on partage pas du tout, mais qui est intéressante de voir l'autre perspective.
Bien sûr, et on verra que d'ailleurs, nous, notre business model évolue dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font la cuisine pour les autres. Il y a eu cette grosse phase du do-it-yourself. Et puis maintenant, le do-it-yourself est toujours à la mode parce que vraiment les gens ont, enfin j'aime pas à la mode, mais tendance, parce que les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent. Mais le do-it-for-me se redéveloppe à la faveur de l'explosion littérale du monde de la restauration. Et c'est pour ça qu'on fait évoluer notre modèle vers de la formation professionnelle en plus.
Super, on va parler
pour
de
former
ça
des chefs
plus tard.
Si on revient un petit peu sur le début, les premiers financements, c'est des financements privés.
Alors, premier financement, on a avec notre belle idée de cours de cuisine, on a fait le tour à peu près de toute la place de Paris.
Tu te souviens du prix du fonds de commerce à l'époque, 2004?
Fonds de commerce zéro, parce que c'était une agence de com qui avait déposé le bilan, il n'y avait plus de fonds. Et en revanche, on avait. On savait qu'on avait à peu près 250 000 euros de travaux à faire. Ouais. Parce que comme c'était une agence de com, il n'y avait pas de plomberie, il n'y avait pas d'extraction, il n'y avait pas de tous ces trucs-là. Ouais. Donc, il fallait des sous. Il fallait des sous pour faire le lieu, et puis après, il fallait un peu de BFR, etc.
Ouais, bon. La trésor pour tenir.
Exactement. Et donc, on fait le tour de la place de Paris, de tout ce que Paris compte de VC, de Business Angel, etc. 0-0-0 pointé. Je pense qu'on était très mauvais pour présenter notre dossier, et puis que notre dossier, il rentrait pas dans les cases. En fait, on n'était pas de la resto, on n'était pas un cours de cuisine classique. On était 100% cours de cuisine, alors que chez le nôtre, ou au Ritz, c'était des side business. Et, objectivement, les gens comprenaient pas, mais... On en revient à... C'est pour ça que je voulais que vous preniez le cours d'abord, avant qu'on discute. C'est que ce cours, à l'heure du déjeuner, ça fait 15 ans que je le raconte, 15 ans que j'essaye d'expliquer ce qui se passe. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas.
Ça,
on ne comprend pas que c'est... À un moment, c'était notre signature, que c'est tellement plus qu'un cours de cuisine. Bien sûr, on a appris des techniques. Bien sûr, c'était chouette de voir Vanessa faire ses techniques, mais... On a échangé, on a partagé.
C'est un super moment.
On était un très bon moment, ça donne vraiment envie de se remettre en cuisine.
Et puis on s'est dit en sortant, ouais, tiens, cette recette-là, ouais, je vais la refaire pour ma nana, je vais la refaire pour mon mec, je vais la refaire pour ma famille, peu importe, mais ça inspire, quoi.
C'est ça qu'il faut le vivre, donc c'est peut-être un peu plus difficile à vendre au début.
Voilà, donc on n'a trouvé personne. Si, on a trouvé 34 super actionnaires qui étaient des Friends and Family, qui eux savaient que François voulait monter une boîte depuis toujours, qui eux savaient que moi j'étais un malade de bouffe depuis toujours et qui se disaient, ok, les deux cocos. Peut-être que ça va pas marcher, mais ils sauront rebondir en tout cas. Bon, et donc les 34 actionnaires nous ont permis de lever à l'époque 300 000 euros.
Donc chacun en moyenne 10 000 euros.
En moyenne 10 000 euros, c'était très disparate parce que notre chère maman a mis 100 000 euros d'un coup et on est descendu, il y avait des tickets à 1 000 euros, donc vraiment c'était très hétérogène là encore. Et puis,
elle a plusieurs actionnaires à ta maman, non ?
On lui a racheté ses parts. et voilà. Et donc, on s'est lancé. On a fait ce premier tour de financement en mai 2004 pour pouvoir payer les travaux. On n'avait pas une thune. Hein. Nous, on avait créé la boîte avec François. On ne voulait pas mettre d'argent à nous. Moi, j'avais 36 ans.
Quatre enfants.
Ouais, voilà, j'avais mis de côté pour vivre pendant un an sans revenu, mais je n'avais pas mis de côté pour vivre pendant un an et puis mettre des sous dans la boîte. Donc, on a créé la boîte ensemble en mettant 20 000 euros pour faire le capital. Mais après, il fallait qu'on trouve des sous. Bon, on a trouvé ces 34 friends and family. Et puis, voilà, on a pu payer les travaux et on s'est lancé. Alors quand même, quand on a eu nos 300 000 euros d'apport en capital de Friends and Family, là, on a trouvé une banque qui a bien voulu nous prêter 100 000 balles.
Ouais, qui a quand même un petit peu... Oui,
alors, c'est bancaire. Ouais, il faut savoir que la restauration, normalement, c'est un business qui est assez bien financé sur de la dette. Oui. D'accord ? Mais sauf que là, nous, notre atelier de la rue de Penthièvre, il n'y avait pas de fonds de commerce, il n'y avait pas même d'emplacement premium. On est rue de Penthièvre dans le 8e, c'est une rue absolument pas commerçante, et en deuxième rideau. Donc, c'était même pas revendable en tant que tel en adresse de restauration.
Mais c'est pas un modèle classique. C'est pas un modèle classique pour un banquier, il va pas trouver ses garanties.
Et puis, un restaurant, il faut qu'il fasse un maximum de couverts. Nous, on n'a que 20 places dans la cuisine, on ne peut pas faire pas avoir plus de 20 clients. C'est objectivement, c'était pas facile pour eux de comprendre.
Hein. Ouais, c'est très novateur à l'époque, c'est clair.
Alors, en revanche, comme les banquiers et les investisseurs ne prêtent qu'aux riches, à partir de septembre ou octobre 2004, on a eu plein de presse et là, ça commence à se remplir. Bah, ça tapait à la porte. Là. Ah, tiens, on vous avait dit que si ça marchait bien, on viendrait mettre des sous. Et sans blague.
Donc, ça a marché tout de
suite. Et les 300 000, vous avez levé ça avec quel valo à l'époque
À l'époque, on a refilé à peu près 30% du capital.
D'accord.
À peu près 30% du capital. Ce qui était... Enfin, de toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait ces sous-là.
Oui, tu avais un PowerPoint, parce que c'était une idée, tu n'avais pas...
J'avais un PowerPoint qui disait qu'on allait faire quelques millions d'euros au bout de 3-4 ans.
C'était une première aventure entrepreneuriale pour tous les deux,
ouais,
non ?
Ouais, et puis objectivement, depuis avoir pris des petits tickets dans plein de boîtes, c'est l'équipe qu'on regarde plus que le projet. Qui pouvait savoir en 2004 que l'atelier des chefs allait marcher ou que Facebook allait devenir ce que c'est devenu. Oui. D'accord ? Donc bon, on a démarré au même moment.
En même temps,
ils ont réussi un peu plus vite que nous, mais bon.
C'est un peu plus escalable quand même, leur modèle.
Exactement.
Et tous les trois sont toujours actifs dans la société.
On est toujours les trois cofondateurs. On est toujours très impliqués. Ouais. C'est François qui dirige la boîte, hein, qui donne la vision stratégique de la boîte. Moi, je suis très orienté commerce, vente. Ouais. Et Jean-Seb, c'est le chef toujours. Donc, c'est notre directeur artistique. Ouais. Avec le côté à la fois aussi incontournable qu'incontrôlable d'un directeur artistique.
D'accord. Ouais.
C'est un type génial. C'est la plus belle rencontre qu'on ait pu faire objectivement. Enfin, moi, que j'ai faite en tout cas dans toute ma vie professionnelle. C'est bien plus qu'un associé maintenant, c'est un ami. Et vraiment, c'est un type exceptionnel parce que très grand chef, mais en plus un chef d'entreprise, un créatif, un gars qui lit un bouquin par jour. Enfin, c'est dingue, quoi.
Pour se donner une idée, vous êtes combien de salariés maintenant ?
On est une centaine de salariés maintenant. Voilà, enfin, c'est une aventure exceptionnelle.
Et donc, premier atelier des chefs, ça marche tout de suite, très rapidement, presse. Mmh. Et vous ouvrez le deuxième à partir de quel moment ?
Un an pile après, 12 juillet 2004, 12 juillet 2005.
Ah, ça va vite, ouais.
D'accord.
Puisque, donc, effectivement, on ouvre, ça marche très vite. Alors, on est en juillet-août, donc autant dire qu'on est en soft opening. On apprend le métier, on n'avait jamais fait ça.
Bien sûr.
Donner une petite anecdote, le matin même du 12 juillet 2004, je suis allé à la banque chercher des pièces pour mettre dans la caisse enregistreuse. J'ai jamais fait marcher une caisse enregistreuse de ma vie, moi. Donc, j'arrive, je prends des pièces de 1 centime, de 2 centimes, de 5 centimes, de 10 centimes. Puis, j'étais tellement content d'avoir tous mes rouleaux que je mets tout dans la machine, quoi. Puis là, je vois Jean-Seb qui éclate de rire. Lui, il se passe. Il dit, tu verras. Alors, tu vas dans ta cuisine, va faire ton cours, tu vas voir, t'as d'autres cabillauds là qui ont mis le soja à faire. Bon.
C'était lui en cuisine au démarrage.
C'était lui en cuisine au démarrage, évidemment. Il n'y a que lui qui était assez fou pour avoir dit ouais, je vais vous faire vos cours en une demi-heure. Et puis voilà, la journée se passe, et puis à la fin de la journée, on compte sa caisse. Bah, quand on compte sa caisse, c'est très con d'avoir 30 pièces de 1 centime, 30 pièces de 2 centimes. En fait, on en met 4 ou 5, mais on n'en met pas 30.
Ouais, clair.
Et là, je l'ai revu se pointer quand je comptais ma caisse, il a éclaté de rire. Tout ça pour dire que vraiment, on avait zéro notion, quoi. Donc, juillet-août, on a fait du soft opening. Et puis, en fait, dès le premier article de presse est sorti le 27 août dans Biba, le 7 septembre, on a eu un télématin. Et là, c'est parti en flèche.
C'est venu très vite. Donc justement, c'est la presse qui vous a aidé. Il y a eu un bouche à oreille qui s'est fait tout de suite.
Il y a eu la presse et puis un bouche à oreille des clients. Parce que comme le concept était assez nouveau, les gens étaient très contents de venir apprendre à faire un plat et de le faire à leurs potes. J'ai appris à le faire à l'atelier des chefs. Et donc, mais c'était hallucinant avec Essie, l'effet d'entraînement. des gens qui étaient en costard cravate, qui travaillaient dans le quartier et qui revenaient après avec leur boîte pour faire le team building. On est toujours en 2004. Et donc, le chiffre d'affaires, c'était marrant. On a fait 10 000 euros 15 jours en juillet, 10 000 euros 15 jours en août. J'ai juste pris 15 jours de vacances. On était explosés. Donc, 10. Et puis après, 90 000 euros en septembre, 110 000 en octobre. On a terminé à 350 000 euros.
En décembre.
C'était absolument
imprévisible. Ouais. Première année,
complète, 1 100 000.
C'est un joli démarrage. Ouais, pour une école des cuisines qui n'avait pas la voix. C'est clair. C'est
première année pleine, 1 100 000. Et puis donc, pour fêter ce 1 100 000, je me souviendrai toujours aussi, c'est là que le temps passe, hein. On avait fêté nos premiers 150 000 euros de chiffre d'affaires, parce que c'était 1 000 000 de francs.
Ah oui, c'était.
On était en 2004, hein, le franc, il n'était pas très très loin.
Ouais, ouais. Et moi, j'avais comparé encore en francs.
Voilà. Ouais. Et quand on avait fait 150 000 euros de chiffre et que c'était 1 000 000 de francs,
ça donne une énergie pour continuer.
Exactement. Exactement. Et puis, donc, pour fêter le premier million d'euros, cette fois-ci, on a ouvert un petit corner aux Galeries Lafayette Maison.
Ah. D'accord. Ouais.
En fait, c'est les Galeries Lafayette qui étaient venus nous voir en disant voilà, on a un petit espace cuisine, il est squatté toujours par les mêmes dames et on ne sait pas le faire, ce n'est pas notre métier. Est-ce que vous voulez bien reprendre l'espace et faire un espace atelier des chefs?
Donc là, c'est un atelier. Enfin, dans un petit corner, tu mets tu vends des produits.
Non,
atelier de cuisine. Ouais.
Il y avait 28 mètres carrés, on pouvait mettre 8 personnes dans la cuisine, mais on faisait des cours matin, midi, après-midi et soir. C'était génial. On faisait plein d'intermodes.
On continue à faire des cours.
Il y a des démos encore mieux.
Des démos, non, plus de cours.
En fait, les Galeries et le BHV, qui appartiennent au même groupe, donc on avait ouvert aux Galeries puis au BHV. Et puis un jour, ils ont décidé de monter en gamme. Donc ils nous ont dit qu'on n'était plus à la hauteur. Ah. Ils ont pris M. Ducasse à la place. Et M. Ducasse, il a tenu 6 mois. Donc nous, on avait tenu 10 ans.
Vous avez tenu 10 ans chez eux. Ouais. C'est énorme. Ouais, donc c'était le deuxième.
Ça, c'était le deuxième. Le troisième, il était au printemps à la Nation, parce qu'on avait une clause de non-concurrence. On n'avait pas le droit d'aller au printemps Haussmann. Donc on est allé au printemps à la Nation.
Ouais.
Et puis après, très vite, en 2006, on est allé en province, Bordeaux et Lyon.
Toujours en propre.
Toujours en propre.
Oui, les franchises, ça vient après.
Ouais, les franchises, ça vient après. 2007, on a ouvert à Bruxelles, première ouverture à l'étranger. Et puis, première franchise, Nantes et Dijon. 2008, ça a été notre plus grosse année, puisqu'on a ouvert Paris-Saint-Lazare. Ah oui, 2007, on avait ouvert cet atelier ici, la rue Péclet.
Aujourd'hui, ouais.
Et puis, 2008, on a ouvert Lille, Londres, Paris-Saint-Lazare. Il m'en manque un. Lille-Londres, Paris-Saint-Lazare. Enfin, je ne sais plus, ça s'est enchaîné. Et alors là, ce qui a été moins drôle, c'est qu'on a donc ouvert à Londres le 4 juillet 2008.
Ouais.
Et le 15 septembre 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le début d'une petite crise
financière, bien sûr.
La crise donc là, ça... prime, c'est le jour où Lehman Brothers crash.
Ouais.
Et là...
Et vous l'avez ouvert en propre à Londres.
On l'avait ouvert en propre. Il nous avait coûté un bras et deux yeux parce que c'était le moment où vraiment tout était au plus haut. Et en gros, du 15 septembre 2008 à fin décembre 2009, on a dû faire 400 000 livres de chiffre d'affaires pour 1,5 million d'investissement. Ouais. C'était une catastrophe. Ça a failli planter la boîte, ça a failli planter Londres,
ouais.
Ça a failli planter la France aussi.
D'accord, carrément tout l'atelier des chefs.
Quand on met 1,5 million d'investissement,
ouais.
Entre-temps, on avait fait une levée de fonds.
Ouais, c'est...
Début 2008, une levée de fonds début 2008 sur la foi justement des très bons résultats France et des potentiels de développement.
Pour l'ouverture de Londres en fait.
Pour l'ouverture internationale. Donc on avait prouvé qu'on avait développé en France. On avait déjà donc 2-3 ateliers à Paris, 2 ateliers en province, à Bordeaux et à Lyon. On venait d'ouvrir Bruxelles et donc Sky était les limites. Quoi.
Ouais.
On lève janvier 2008, on ouvre Londres dans la foulée et dans la foulée, crise des subprimes. Donc heureusement on avait levé, donc on avait du cash, sinon on était mort. De toute façon, on n'aurait pas ouvert Londres si on n'avait pas eu de cash. Donc, bon.
Oui, mais assez de cash pour tenir le choc.
On avait assez de cash pour tenir le choc.
Vous avez réussi à redresser Londres finalement.
On a réussi à redresser Londres, ce qui fait que maintenant, on a 2 ateliers
avec
les cartons.
Donc, c'est toujours le même.
En revanche, on a pris la décision de fermer Bruxelles parce qu'on ne pouvait pas en 2008 avoir deux cash drainers et deux nouveaux pays à ouvrir. Ouais, et là, c'était trop. Et autant Londres, il y avait un gros potentiel de développement et sur la ville et sur le pays et sur le monde anglo-saxon. Autant Bruxelles, déjà, il y avait les Flamands qui nous emmerdaient parce qu'ils voulaient que le site soit en flamand. Il n'y a pas d'énorme potentiel de développement. J'adorais notre atelier à Bruxelles. Il était magnifique. Il y avait une mosaïque au sol. On avait un super chef. On avait une super équipe. C'était canon. Mais voilà, on ne pouvait pas avoir de cash drainer. Donc, on a abandonné Bruxelles à ma grande tristesse. Et puis, on a gardé Londres où François a été passé 6 mois, 3 ou 4 jours par semaine pour redresser le bousin, le remettre sur pied. Et puis, dans la foulée, on a ouvert Dubaï.
Ah oui, voilà.
Donc, ça c'était mi-2009. Alors, Dubaï, ça, c'est encore une autre aventure. J'ai dit tout à l'heure que j'avais bossé chez Nestlé à Dubaï.
Ouais.
Et quand j'étais chez Nestlé à Dubaï, pour vous dire qu'il y avait un fil rouge dans ma vie quand même, c'est que j'avais fait un concours de cuisine à Dubaï que j'ai gagné.
Ah, bravo.
Voilà, donc j'étais Super Cook 2000.
Voilà, bravo, félicitations.
Organisé par qui ces concours?
C'était organisé par le canard du coin qui s'appelle le Gulf News. Le Gulf News, c'est aussi bien c'est le Parisien et le Figaro réunis. Quoi. C'est le canard local, national, d'accord, international. Bon. Et ils organisaient un super concours de cuisine et puis je m'étais inscrit un peu pour me marrer et j'ai gagné le concours. Donc j'ai eu ma tronche.
Mais quelle recette, c'était intéressant, cette histoire quand même.
C'était énorme.
Mais c'était des recettes locales ou des recettes
françaises? Non, tu pouvais faire les recettes que tu voulais. Pour les quarts de finale, demi-finale, tu faisais les recettes que tu voulais. Et puis pour la finale, il y avait un panier imposé. Il fallait qu'on envoie. On avait le panier 48 heures avant, 24 heures avant. Non, on avait le panier 48 heures avant et il fallait qu'on crée une entrée, un plat, un dessert. Et donc je gagne ce concours. Donc j'étais super content, plus hyper richement doté, canon. Et puis, donc ça, on est en 2000. Et puis, quand on a ouvert en 2004, 5, 6, etc., on a eu pas mal de presse. Et un jour, en 2007 ou 2008, je reçois un coup de fil. Je vois un numéro de Dubaï qui s'affiche, donc je pense que c'était un copain. Et non, c'était le directeur du Méridien, dans lequel, de l'hôtel Méridien, dans lequel la finale s'était passée. Ah, elle me dit que je viens de lire un article dans je ne sais plus quel canard international sur un Nicolas Bergerot qui a ouvert une école de cuisine. Est-ce que c'est bien vous le Super Cook 2000?
Super,
ouais, c'est bien moi le Super Cook 2000. Elle me dit, écoutez, l'histoire est quand même dingue. Est-ce que vous ne voulez pas ouvrir un atelier de chef au Méridien à Dubaï?
Wow.
Voilà, un peu de discussion, un peu de négo. Et mai 2009 ou juin 2009, on a ouvert l'atelier de chef à Dubaï.
D'accord.
Voilà, donc et là, c'est un partenariat. Comment ça fonctionne?
Là, c'était une joint venture. En fait, on avait co-investi. On a mis de l'argent. Je sais plus combien on avait mis, 150 000 euros chacun, pour construire un petit 50 mètres carrés de cuisine qui donnait dehors sur la piscine et tout. Alors évidemment, il y avait un peu de clim et tout, hein, parce qu'il fallait un peu prévoir le truc. Et puis, donc, on avait co-investi et puis on partageait les bénéfices.
Même mécanique, cours de cuisine, un chef
de cuisine pour les particuliers, chef de cuisine. Au début, on avait un super gars, Grégory, qui était algérien d'origine et qui donnait tous les cours en anglais, hein, parce que l'arabe des Algériens n'est pas l'arabe des Dubaïotes, donc il n'aurait pas pu se parler. Il pouvait s'écrire éventuellement, mais pas se parler. Et donc Grégory donnait tous les cours en anglais. Mais ce qui était formidable à Dubaï, c'est que c'est un tel melting pot culturel que pour une même recette, on pouvait avoir 4 ou 5 nationalités autour de la table. Et
je pense qu'en termes de
mais cours de cuisine à l'heure du déj, cours de cuisine matin et soir, matin et après-midi, du team building, on avait tout, la même chose.
Il existe encore cette atelier?
Non, parce que le Méridien à Dubaï, celui qui était à Méridien Airport, a changé d'enseigne, a été pété ou je sais pas quoi. Et donc on est sorti en 2017, mais on est resté 8 ans quand même.
Quand même. Ouais. Et donc aujourd'hui, et vu qu'on parlait de l'international, c'est intéressant parce qu'on avait trouvé une vidéo, je pense que c'était en 2013, où tu parlais d'une ouverture en Chine et en Asie. Est-ce que tu peux nous raconter plus sur ces projets?
Alors 2014, on est parti avec François en Asie, parce qu'on ne connaissait pas l'Asie ni l'un ni l'autre.
Tu n'étais jamais allé en Asie, même
en voyage?
D'accord, mais pas professionnellement.
4 jours en Birmanie et 3 jours à Pékin.
D'accord.
Et donc on part là-bas et on passe presque 2 semaines et on a été à Hong Kong, à Shanghai et à Singapour. Et l'idée c'était de se dire, ok, on va repérer dans quelle ville on va lancer l'atelier des chefs. Hong Kong, super, mais loyer inabordable. Singapour, ça roupille, où il y a que des banquiers un peu blasés, enfin c'est pas très marrant. Et on a été complètement scotché par Shanghai. Moi, j'ai trouvé que cette ville était pleine d'un dynamisme, d'une activité, d'une ouverture sur le monde. Les Chinois de Shanghai, tout le monde dit que Shanghai n'est pas chinois, comme New York n'est pas américain, mais bon. Mais les Chinois là-bas, hyper ouverts, montrant leur affection pour la France, leur goût d'apprendre, leur goût pour la bouffe. Enfin, vraiment, il y avait tout.
Il doit y avoir une forte communauté européenne.
Mais encore une fois, même à Londres, moi je ne cherche pas la communauté française.
Ouais, hein, l'étranger, les locaux.
Et donc on remonte dans l'avion, et là François me dit, on était en mai ou juin, François me dit, ok, en septembre, je m'installe à Shanghai.
Il allait carrément s'installer à Shanghai.
Dès lors, t'es gentil, mais tu ne me laisses pas tout seul à Paris. Enfin bref. Et puis en fait, on s'est rendu compte assez vite que l'international, c'est super glamour. Mais on n'a jamais réussi à totalement ficeler le concept pour l'international. C'est-à-dire que l'atelier des chefs en Chine.
Mais
est-ce que c'est pour apprendre?
Vous avez lancé en Chine finalement ou pas?
Non, on n'a pas investi en Chine.
Donc ça reste un projet.
On n'a jamais fait. Ça reste un projet et c'est toujours, moi j'ai toujours en tête, mais j'ai toujours pas réussi à ficeler le truc parce que l'atelier des chefs en Chine, c'est quoi? Est-ce que c'est une école de cuisine pour apprendre la cuisine française? La cuisine française, les gens l'aiment beaucoup, les locaux ils l'aiment beaucoup.
Mais ça va être
mais ils aiment bien la manger dans des restaurants français. Ils pensent que c'est totalement inaccessible et qu'enfin un Chinois il va pas cuisiner.
C'est pas une cuisine de tous les jours.
Et c'est pas votre mission. Votre mission c'est de mettre les gens au fourneau.
Alors maintenant, si je me pointe en Chine et que l'atelier des chefs va apprendre aux Chinois à faire des wok. Bon, bah, je ne suis pas sûr d'être très crédible non plus. Et donc, en fait, on n'a jamais réussi, et peut-être qu'on ne s'est pas assez focalisé, parce qu'après on va revenir après sur nos objectifs qui ont un peu changé, mais on n'a jamais réussi à bien caler le concept du développement international. Mmh. Et puis en plus, bah, chaque développement international, on s'était quand même un peu fait peur. Hein. Bruxelles, on s'est fait peur, enfin on a fermé. Londres,
ça a été
peur.
Risqué, même si vous en sortez voilà, pas finalement.
On a eu les jetons, et tout ça, c'était à 1h30 de Thalys ou à 2h de train, et 2h d'Eurostar sans décalage horaire.
À 10h d'avion, c'est pas pareil.
À 10h d'avion avec 8h de décalage, pas tout à fait la même chose à gérer. Ouais. Donc, malgré toutes les sirènes, les sirènes et les appels, plein de gens nous disant « Mais je comprends pas, pourquoi vous faites pas international ?» Bon, on a eu un peu les jetons, disons-le clairement. Et on l'a pas fait, parce qu'en fait, chaque ouverture, c'est un bon gros million de dollars, hein, tout compris. À Paris, on l'a fait à 250 000, parce qu'on l'a fait, on l'a fait nous-mêmes.
En mode
place, en se payant pas pendant l'étude de marché, en se payant pas pendant 6 mois, en se payant pas ceci, etc. Quand tu as une vraie équipe qui va le faire là-bas, ça coûte un peu plus de sous.
Et donc, combien de temps ça a duré, en fait, le projet de la Chine, la décision de finalement ne pas y aller ?
Le projet américain, ça fait 15 ans qu'il dure.
Ah, il y a aussi un projet américain.
C'est un projet qui est toujours en cours.
Oui, non, mais bien entendu que notre belle enseigne, on rêverait de l'avoir à l'international. Bien entendu qu'on y retravaillera un jour, d'ailleurs. Mais en fait, depuis, on a pris une direction stratégique qui va plus vers la formation pro en termes de développement. Et donc, à ce stade, tous les développements internationaux sont un tout petit peu en stand-by.
D'accord.
Ah. Vas-y.
Non, vas-y.
Non, aujourd'hui, il y a combien d'ateliers des chefs?
Donc aujourd'hui, il y a 11 ateliers. Il y en a 9 en France et 2 à Londres.
2 à Londres, ouais.
Tous en propre, sauf 3 qui sont en franchise. Les Aix-en-Provence, Toulouse et Lille sont des ateliers en franchise. D'accord. Tout le reste nous appartient.
Et la franchise, si tu peux nous raconter un peu plus des avantages, de ce que tu trouves bien, moins bien, ta relation avec les franchisés.
La franchise, on a fait de
pourquoi
de,
la franchise, du d'ailleurs
back and forth. Au début... Objectivement, l'atelier des chefs marchait très bien, tellement bien qu'on se disait pourquoi faire de la franchise, c'est tellement rentable que voilà. Et puis en fait, on s'est rendu compte que un, on pouvait pas être partout, que deux, on pouvait pas connaître toutes les villes comme certains franchisés peuvent la connaître, etc. Et au contraire, on s'est appuyé sur nos franchisés pour développer Nantes, Dijon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Toulouse, Lille. Il m'en manque un. Il va pas être content. Il y en a quelques-uns qui ont très bien marché, qui continuent à très bien marcher, d'autres qui ont très bien marché et puis qui ont périclité. Dijon, elle marchait super bien et puis elle a décidé de changer d'enseigne, objectivement de nous faire un petit dans le dos, et donc au bout de 3 ou 4 ans elle a changé d'enseigne, 6 mois après elle était morte. L'enseigne, je parle, évidemment. Nantes, il a été franchisé pendant 10 ou 11 ans et puis il a fermé là, l'année dernière, ou même en juin dernier là. Strasbourg, même chose, 2007-2019, donc 12 ans de franchise. Et puis là, il vient de fermer. Voilà, en fait, c'est un concept, l'atelier des chefs, qui objectivement fonctionne très très bien dans les grosses villes où il y a un gros tissu B2B d'entreprise.
Ouais.
En province, dans les petites villes, c'est un chouïa plus compliqué. Enfin, c'est pas aussi
c'est
dynamique.
C'est beaucoup appuyé sur les particuliers, voilà, en fait.
C'est plus les particuliers. Les budgets qu'ont les entreprises sont beaucoup moins élevés. Donc finalement, les frais fixes sont à peu près les mêmes, avec en revanche des chiffres d'affaires qui sont bien moins importants. Alors quand on a un franchisé super dynamique sur place, ce qui est le cas aujourd'hui à Aix, à Toulouse ou à Lille, on voit que ça dynamise et tout, mais ça boite, donc on est content. Quand on avait des salariés à Rennes, à Marseille, à Bordeaux, quand on a une bonne équipe, ça grimpe. Mais après, on n'a pas beaucoup de perspectives à offrir, donc la bonne équipe s'en va, et donc il y a une autre équipe qui arrive, et si elle n'est pas aussi bonne, ça ne fait pas autant de croissance. Et en revanche, objectivement, manager une chaîne comme celle-là partout en France, moi je me suis usé pendant 2 ans, là, les 2-3 dernières années, parce que, en fait, on a un concept à la fois très intégré, au sens où toutes les réservations se font par le site web, il y a les mêmes formats de cours partout, il y a tout qui fonctionne très bien, mais en revanche... le contenu, l'ambiance, c'est très local. On ne fait pas le même jour les mêmes cours à Lille et à Aix-en-Provence. Les clients de Lille en B2B, ils veulent tous un menu particulier, et puis ils veulent un menu lillois, ils veulent pas de la bouillabaisse.
Il faut de l'adaptation.
Et donc, il faut que chaque manager incarne véritablement son atelier, en soit son propre patron. Donc, quand il est franchisé, ça marche. Quand il est salarié, c'est un peu plus compliqué. Et après, certes, ça marche quand on est une franchise, mais... par rapport à des franchises plus simples, 9h-19h, à très fort taux de marge, je pense aux fleuristes ou aux franchises de pneus, nous, il y a du boulot, quoi. C'est de la restauration, on bosse le soir, on bosse le week-end,
c'est clair.
C'est un peu plus compliqué.
Et du coup, là, pour la suite, vous mettez ça un peu en stand-by, ou vous êtes plutôt, si jamais il y a des intéressés, vous donnez suite au dossier?
C'est marrant, parce que là, de nouveau, on a des demandes de franchise. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de médias ces derniers temps, donc on a de nouveau des demandes de franchise. Je serai très prudent. Je cherche pas à signer des franchises, je veux des franchiseurs heureux qui s'éclatent dans leur métier, dans la ville dans laquelle ils sont. et qui vont prendre autant de plaisir que moi à diriger leur atelier.
Super.
Et sur l'étranger, le jour où j'aurai la fortune que je mérite, ou en tout cas le jour où la deuxième partie de notre business, qui est la formation pro, aura décollé, on aura 3 sous, et quand même, je rêve d'un flagship aux US, et d'un flagship en Chine, et d'un flagship au Brésil.
On va t'aider là.
On a un candidat aujourd'hui pour diriger l'atelier des chefs au Brésil.
Exactement.
En chiffre d'affaires, du coup, aujourd'hui, l'atelier des chefs, ça donne quoi,
1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année.
Et qui se répartit comment en fonction des activités
aujourd'hui? Alors, j'ai parlé un tout petit peu, enfin, j'ai parlé beaucoup des ateliers. J'ai un petit peu parlé de la formation pro, qui est un business tout neuf chez nous. J'ai pas parlé de la troisième activité, on en parlait à table tout à l'heure, c'est construire des politiques, enfin des campagnes de communication pour les marques.
Ouais.
On parlait de la villageoise. La villageoise est un vin de cuisine. Je précise que c'est pas bon à boire. Hein. C'est un vin de cuisine. On est heureux de faire un partenariat avec la villageoise pour montrer comment, avec la villageoise, on peut faire une très jolie cuisine, parce que ça sert à rien de mettre un chablis premier cru pour déglacer une poêle. On en parlait tout à l'heure. Donc on fait pas mal de partenariats avec des marques d'agroalimentaire, avec des marques de matos de cuisine, avec des distributeurs pour mettre en avant leurs produits à travers des recettes, des photos, des vidéos, des cours avec leurs produits, des roadshows qu'on fait avec leurs produits, et puis de la communication digitale.
Donc ça, c'est devenu une vraie source
depuis le début,
de chiffre d'affaires.
Depuis le début, moi j'arrivais quand même de chez Nestlé, hein, avec des grosses boîtes d'agro avec du market. Et en fait, dès le début, on s'est dit, si on s'adresse à la clientèle qui fait la cuisine tous les jours, bah, on ne doit pas s'interdire de travailler avec les produits tous les jours. Et donc, clairement, mes chefs, de temps en temps, quand je leur dis qu'on va travailler avec la villageoise ou avec un haricot vert en boîte de chez Casse-Grain, ils disent, dis donc, t'es gentil, on s'appelle quand même l'atelier des chefs.
C'était notre remarque tout à l'heure sur la villageoise. En effet, ça surprend, mais après, en effet, comme tu l'expliques, ça fait du sens.
Bien sûr, et les haricots verts en boîte, il y a 9 foyers sur 10 qui en ont chez eux, probablement par crainte de la guerre ou je ne sais pas quoi. Un haricot vert en boîte, s'il est bien rincé, qu'il est en petit fagot avec une petite tranche de lard et sauté dans une poêle avec une gousse d'ail, c'est très bon.
Juste une parenthèse, on croit beaucoup à la conserve. On pense que c'est un produit qui est sous-utilisé aujourd'hui. Il suffit de voir un peu cette phénomène yucca. En fait, on fait un yucca sur la conserve.
Il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de conservateur. Il y a la stérilisation. Alors,
sauf que ce n'est pas bien marketé.
Tous les produits ne supportent pas 45 minutes de stérilisation.
Oui.
Mais les plats cuisinés, les tomates pelées, moi je ne mange plus de tomates à partir du 31 octobre.
Mais les pelées, tu
manges jamais. Les tomates en conserve.
Mais les tomates pelées, oui, ça va grand plaisir.
Et on pourrait même parler, on a évoqué des conserves millésimées, un tomate 2017, tomate 2018. Exactement. En fonction de la météo. Exactement. Et on part très loin. Exactement. Avec
donc beaucoup de partenariats avec les marques, parce qu'on les assume totalement. Et donc la répartition du chiffre, pour revenir à tes questions, donc sur les 12 millions de cette année, il va y avoir un gros million de formation pro, il va y avoir 2 millions de travail avec les marques, donc ça fait 3, et donc il en reste 9 qui sont le chiffre d'affaires des ateliers.
Des ateliers. En ligne, toute l'activité digitale, c'est les formations pro, parce que finalement c'est le CAP.
iChef, qui était des cours de cuisine en ligne, maintenant je ne le vends plus qu'à des marques comme dotation.
D'accord.
Donc c'est plus un business model en tant que tel.
D'accord.
Donc ça reste aujourd'hui, j'ai regardé, je pense que c'était une job description pour un poste des business developers chez vous, et on parlait d'une ambition de passer les digital, je pense que de 1,2 à 9 millions en 2022, et je voyais que je pense que la totalité c'était 18 millions pour 2022, ça veut dire que 9 millions en atelier. Vous estimez peut-être une baisse du chiffre d'affaires atelier, une augmentation digitale.
C'est compliqué de dire exactement à quel
c'est un exercice théorique, oui, on est d'accord.
Mais globalement, le business des ateliers et le business du conseil a vocation à progresser de 3-4% par an.
Ça reste stable.
Alors que dans les 3 ans qui vont venir, en effet, le business de la formation pro va être multiplié par 8 ou 9.
Donc parlons-en de la formation pro.
Comment ça nous est venu? En fait, il y a eu 4 étapes. La première étape, quand on ouvre en juillet 2004, c'est on fait de la formation pour les amateurs en présentiel. En 2009, avec la crise des subprimes, on dit qu'il faut se diversifier un peu et avoir éventuellement des clients avec des contrats un tout petit peu plus longs. Et là, il se trouve qu'il y a des chaînes de restaurants qui commencent à venir nous voir en nous disant, si vous savez former des amateurs, vous devriez savoir former nos professionnels qui ne sont pas très loin des amateurs. Je parle de chaînes type La Criée, El Rancho, etc. Donc, on commence à faire de la formation pro présentielle. En 2011 ou 2012, on lance iChef. iChef, c'était des cours de cuisine live en ligne pour les amateurs. Tous les soirs, il y avait un cours de cuisine live en ligne. Donc là, on apprend à faire de l'amateur digital.
Ouais.
Et puis la logique après, c'était de faire du professionnel digital. Alors, le professionnel digital, ça a commencé en 2017. On a lancé notre préparation au CAP Cuisine 100% en digital, 99% de taux de réussite.
Ça, tu considères comme du professionnel, mais il y a des particuliers comme moi, oui, par exemple, qui sont intéressés à ce type de formation.
C'est du professionnel parce que c'est un diplôme professionnalisant.
D'accord.
Alors, bien entendu, effectivement, sur les 1000 personnes qui vont passer le CAP l'année prochaine, je pense qu'il y en aura même pas 25% qui vont aller bosser dans une cuisine. Il y en a plus qui font ça par challenge, pour passer un cap en technique, etc. Mais il n'empêche que c'est le premier diplôme de l'éducation nationale en cuisine.
C'est les CAP.
Et que le fait d'avoir 99% de taux de réussite nous a crédibilisé sur la capacité à faire de la formation professionnelle à la cuisine en ligne, ce qui est assez anti-intuitif ou contre-intuitif. D'accord, oui. Apprendre à lever de fil un filet de poisson
à travers un écran.
Je rassure nos auditeurs. On regarde, on apprend la technique. Le pourquoi, comment on fait de lever un filet de poisson. On voit une vidéo de lever un filet de poisson, puis après, il faut le faire chez soi, et puis il faut même montrer une photo, on doit shooter une photo du poisson entier et des filets levés et de l'arête qui reste pour voir s'il n'y a pas de reste. On download ça sur la plateforme et notre chef correcteur va pouvoir dire c'est bien fait ou c'est pas bien fait.
Il y a quelqu'un qui suit chez vous.
Il y a quelqu'un chez nous qui suit toutes les réalisations.
Je me suis inscrit à la formation, il y a un essai gratuit, hier et j'ai vu exactement ça en fait, qu'on devrait envoyer des photos.
Tu vas être obligé d'envoyer des photos. Non, mais en fait, comme si tu veux passer l'examen au mois de juin et que si tu veux être prêt, il faut que tu envoies tes trucs pour que le chef puisse te corriger.
Les buts, c'est d'évoluer.
Et donc, en montrant qu'on était capable de former au CAP Cuisine et CAP Pâtissier, maintenant, on montre à tous nos nouveaux clients qui s'appellent Sodexo, Corient, Carrefour, le groupe Barrière, le groupe Bertrand, qu'on sait faire de la formation professionnelle digitale pour leurs équipes. Macron, il n'y a pas très longtemps, 6 ou 8 mois, disait à la radio, tu cherches un job, je vais t'en trouver un, va dans la restauration. Effectivement, il y a 100 000 jobs à pourvoir
en
restauration, cuisine et salle. D'accord ? Ok, pour pouvoir, c'est sympa de dire que n'importe qui peut aller à la restauration, mais il faut quand même un minimum de formation. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse former le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, le moins cher possible, mais tout ça avec un gros niveau, pour fournir de la main-d'œuvre à la restauration qui n'en a pas.
Et surtout que ça marche, hein. Tu le disais tout à l'heure, vous avez un taux de réussite exceptionnel.
99% de taux de réussite à l'examen du CAP, le vrai examen de l'éducation nationale, hein. c'est pas un truc, un sous-diplôme.
Les gens s'abonnent, ils ont accès à des cours, ils valident.
Ils
vont passer un véritable examen.
En candidat libre à l'examen du CAP de cuisine ou du CAP pâtissier, qui est un examen rigoureux. Bah, moi, je l'ai passé il y a 2 ans et c'est. C'est
tu l'as réussi.
Je l'ai réussi.
Supercook 2000.
Chez Supercook 2000.
Supercook 2000.
Non, mais c'était assez. Et c'est marrant parce que tu en parlais tout à l'heure. Je suis donc CAP cuisine 2018. Et un peu comme un clin d'œil, j'ai publié sur les réseaux sociaux que j'étais donc HEC 90 CAP cuisine 2018. Mais c'est hallucinant le succès que j'ai eu avec cette offre, avec ce poste. Et d'ailleurs, dans la foulée, on a créé un double diplôme.
Ça, c'est ce qu'on a
fait. En fait, moi, j'ai passé l'examen et puis il y avait une étudiante qui était sur le campus qui l'a passé aussi complètement séparément. Puis elle m'a appelé en me disant, il y a plein de gens sur le campus qui me demandent si eux aussi pourraient s'inscrire au CAP. Je dis, ouais. Elle dit, vous ne pouvez pas faire un tarif étudiant. Donc, on a fait un tarif étudiant. Et puis, donc là, on a eu 10 personnes l'année dernière. Donc, il y avait une en 2017, 2018, 10 en 2019. Puis là, elle est venue me voir. Elle me dit, bon, alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les étudiants sur le campus, ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent faire les exercices pratiques.
Et HEC, c'est loin quand même.
C'est au milieu des champs. Donc, il n'y a pas de cuisine. Ils ne peuvent pas le faire. Bon. Donc, j'ai sponsorisé une cuisine là-bas pour que les
jeunes... Oui, il y a une cuisine qui a été créée à HEC.
Alors, c'est une cuisine d'un restaurant qui sert aussi pour faire d'un restaurant qui a été créé par HEC. Mais qui permet de faire des exercices pratiques. Puis le deuxième problème, et là j'en sais infiniment gré à Eloïc Perrache, le directeur de l'école, c'est qu'il fallait une petite motivation. Quoi. Et bien maintenant, les élèves qui passent le CAP cuisine à HEC, ça compte dans leur crédit, ça compte dans leur électif.
Dans le cursus,
oui, c'est ça. Et Eloïc, quand je lui ai proposé ça un peu comme un défi, quoi, j'ai dit tiens, et si on faisait un double diplôme, il me dit ah ouais, super bonne idée.
Mais c'est top.
Dit, c'est bon, t'as 2 minutes pour réfléchir, je suis pas ni polytechnique ni l'ENA, quoi, tu vois. Donc, il dit non, mais tu peux pas savoir, comme les élèves aujourd'hui, ils ont besoin de redonner du sens.
Ouais, c'est ça, ça compte pas du tout.
Il y a quelques exemples de réussite dans la restauration.
Big Mama.
Et les chefs, Big Mama et Paris New York.
HEC d'ailleurs.
Et donc, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça. Donc, c'était cohérent. Et donc, on a annoncé en septembre à la rentrée. Là, il y avait la rentrée des nouveaux diplômés. Et hardi petit, on a annoncé qu'on avait notre offre étudiante, que ça rentrait dans les crédits, qu'il y avait une cuisine. Et je pense qu'on va, au 15 novembre, là, qui sera la fin des inscriptions à l'examen, on va avoir une trentaine ou une quarantaine d'HEC qui vont s'être inscrits.
Oui, là, ça va être la première vraie promo double diplôme.
Première vraie promo double diplôme. Première vraie promo double diplôme. Et encore une fois, quand on a shooté, enfin montré les photos de réseaux sociaux où on serre la main avec Aloïc pour dire HEC, l'atelier des chefs s'associe, 130 000 vues sur LinkedIn.
On a vu les... Ça t'a fait un buzz des dingues.
Et donc, c'est un vrai sujet.
Il y a plein d'autres écoles qui sont venues nous voir. Il y a les anciens d'HEC qui sont venus nous voir, donc on a fait une offre pour eux aussi. Enfin, ça a du sens. En fait, tout ça, c'est cohérent. C'est cohérent.
De la même façon que tu as mis les Français au fourneau il y a 15 ans, là, tu mets les Français à créer les business of bouffe, en fait.
Exactement. Et alors, c'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'on est en train justement de retravailler, enfin, on a terminé de retravailler notre mission. Et notre mission, il y a 14 ans,
vous
il y a 15 ans,
plateforme des marques, vous avez
on a une plateforme de marque. On va bientôt changer notre logo qui a un peu vieilli au bout de 15 ans.
On avait une question.
J'ai déjà la réponse, donc voilà, tout va bien. Mais je voulais pas, ça fait longtemps que je me dis que je voudrais changer le logo, sauf que je ne change pas le logo uniquement pour changer le logo. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Et l'histoire, c'est qu'on ne remet plus simplement les Français au fourneau, on aide chacun à s'accomplir. Aider chacun à s'accomplir, c'est vous qui avez appris ce matin à midi à faire le pavé de bœuf avec la purée au lait de coco. Et d'une certaine façon, c'est une forme d'accomplissement.
Ouais, quand vous allez rentrer chez vous, il y a une satisfaction.
Vous allez faire les barbeaux avec vos gonzesses, avec vos familles, etc. Et ben, vous allez vous accomplir. Hein. C'est le jeune qui va passer son CAP cuisine avec nous et qui va rentrer dans la vie active. C'est le vieux qui se reconvertit. Et donc, objectivement, il y a une nouvelle donne à la stratégie de l'atelier des chefs et qui fait que maintenant, ça se justifie de changer de plateforme de marque. Voilà, voilà.
Et les noms restent l'atelier des chefs, par contre. Oui, oui. En Angleterre, vous vous appelez comment ?
L'atelier des chefs. Ils ont un peu de mal à le prononcer. Ils disent l'atelier.
Atelier. Mais bon, atelier, c'est un mot qui n'est pas très compliqué, on va dire.
Non, en français, on connaît. Le mot chef pour lui, il marche dans tous les sens. Et puis, non, mais au début, l'agence de promo, l'agence de com qui s'occupait de nous, disait quand même votre nom, il faudrait en changer, il ne se prononce pas bien. Et j'ai dit, donc, il y a quoi de l'autre côté de la rue, là? Il y a prêt à manger. C'est quoi? C'est pas des Français, ça? C'est des Anglais qui ont choisi un nom français?
C'est né là-bas.
Grand groupe américain, maintenant, ils utilisent un mot français.
Donc, on est l'atelier des chefs, on sera l'atelier des chefs partout. Et puis, c'est tout.
Et juste pour finir avec l'histoire HEC, parce que je trouve ça incroyable. Et les étudiants d'autres écoles, lui, il a fait CP Europe ou ESSEC, ils peuvent aussi avoir.
Il y a une offre étudiante. Il y a une offre étudiante qui est la même pour tout le monde. En revanche, j'ai des ambassadeurs.
Ils ont pas des cuisines chez eux.
J'ai des ambassadeurs dans chaque école qui essayent d'aller négocier l'inscription.
Pour que ce soit validé
dans les électifs.
Cursus, ouais, voilà.
Et puis, il y a moins besoin de cuisine parce qu'à l'ESCP, les étudiants habitent généralement en coloc à Paris et ils se débrouillent pour faire la cuisine.
À la limite, ils peuvent venir dans un atelier des chefs.
J'espère que l'X va bientôt m'appeler en disant qu'ils aimeraient bien qu'on fasse un double diplôme X atelier des chefs aussi. Ça serait bien.
On va militer dans ce sens.
Allez-y, parlez aux étudiants de l'X.
Et on parle un peu de ton client type, en fait. Je suppose que ça, on parlait beaucoup des clients pros, mais par exemple, les clients qui viennent faire des ateliers, c'est quoi les profils?
Je vais être un peu basique, mais
ça évolue.
C'est de l'actif CSP plus urbain.
D'accord.
On est en centre-ville, dans des beaux quartiers, même si notre premier cours coûte 17 euros, on est quand même considéré comme un produit sélectif.
Plus haut de gamme.
Donc on est assez actif CSP plus urbain.
Plutôt homme, femme.
60% de femmes, 40% d'hommes. Ça, c'est, l'écart s'est rétréci. On était plutôt à 70-30 et maintenant on est à 70-40.
T'as vu l'évolution?
Mais ouais, il y a de plus en plus d'hommes qui vivent plus longtemps tout seuls avant de se marier ou après s'être mariés, qui ont des enfants, ils doivent les nourrir. Il faut bien qu'ils se débrouillent, les gars. Hein, et puis, la cuisine, c'est vachement, j'allais dire, asexué. Il y a de plus en plus de mecs qui cuisinent pour le plaisir aussi, quoi. Depuis que ça n'est plus une corvée ménagère, que c'est un élément de valorisation,
Tu cuisines à la maison avec quelle fréquence?
Si pas tous les jours, une fois tous les deux jours.
Ouais. Bah moi, pareil, moi, je cuisine 4 fois par semaine minimum. Ouais.
Tous les dîners de copains, généralement, c'est moi. Le week-end, c'est moi. Mais à côté de ça, comme ma femme et mes enfants ont pris plein de cours à l'atelier des chefs, ils cuisinent très bien maintenant tous. Je rentre à la maison mon fils de 16 ans, le dernier, l'autre jour, il m'accueille et il me dit « Papa, comme vous étiez en retard, je vous ai fait un poulet basquaise. » C'est la classe. Hein.
C'est une sacrée réussite.
Mes 4 enfants sont une réussite forte, évidemment. Mais le poulet basquez du petit dernier et le fait que l'aîné maintenant bosse avec nous depuis 2 ans.
Il est parti, il a rejoint l'atelier des chefs.
C'est une vraie
entreprise familiale maintenant.
C'était pas du tout prévu, mais elle rêve de bosser dans l'éducation. Il se trouve qu'on lançait de l'éducation finalement à la cuisine. Et donc elle nous a rejoint il y a 2 ans.
Super.
Voilà.
Parlons peut-être un peu des chiffres. Moi, je voulais parler un peu des chiffres ou tu as d'autres sujets que tu aimerais. Non ? Parce qu'on a parlé des chiffres d'affaires, on n'a pas parlé de rentabilité. Oh, avant de parler rentabilité, quelles sont les structures des coûts aujourd'hui ? C'est l'immobilier,
ça dépend vachement des métiers, évidemment, mais avec 100 personnes, c'est la masse salariale qui est mon budget numéro 1.
Ça, c'est ton budget. C'est quoi, 50% de ton coût, 60%,
J'en sais rien.
D'accord.
J'en sais rien.
Okay,
je fonctionne, ça doit être 32% de mon chiffre d'affaires, donc de mes coûts, j'en sais
d'accord.
rien. Donc les salaires, c'est ce qui est le plus important. Deuxième poste, les loyers.
Ouais, voilà.
Les loyers des ateliers. Et puis après, pas mal de market quand même.
Oui.
Pas mal de market pour émerger.
Vous investissez beaucoup, surtout avec la partie digitale.
Ouais, en acquisition digitale, j'imagine.
Acquisition digitale pour les CAP. Puis alors, pour le coup, on travaille avec trois types de clients. Hein, du B2C pur, là, faut y aller pour faire venir les gens dans les cours de cuisine. Les formations pro, les CAP, là aussi, on est quelques acteurs sur le marché, donc faut émerger.
Ouais, il y a différentes cibles.
Et puis, ne serait-ce que, en fait, c'est même pas tant les acteurs, parce que je crois qu'on, je sais pas si on se pique des parts de marché, mais on est en train de créer le marché. C'est-à-dire que les CAP, avant, c'était vraiment le diplôme qu'on faisait quand on avait merdé le CAP. Ouais. Hein, et maintenant, c'est un diplôme glamour à
c'est
passer.
Beaucoup
et donc,
plus valorisé. C'est
donc je pense qu'il y a trois fois plus de candidats.
Les formations CAP à 1200 euros, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, ça c'est sûr.
Petite parenthèse dans les chiffres, tu as tes concurrents aujourd'hui, tu dirais, tu as des concurrents directs de cette taille-là. Il y a des cours de cuisine.
Hein, j'ai un concurrent sur les cours de cuisine qui s'appelle l'Atelier d'essence.
Oui,
c'est vrai. Je respecte beaucoup parce qu'ils sont nés exactement en même temps que nous. Il y en a beaucoup, beaucoup qui nous ont pompés, qui sont morts d'ailleurs depuis. L'Atelier d'essence, elle vit encore parce que, enfin, Natacha, je ne devrais pas l'appeler comme ça, mais l'entreprise vit encore. Parce que elle aussi, elle est partie sur des fondements solides puisqu'elle s'est créée exactement en même temps que nous. Alors, elle s'est moins développée sur d'autres métiers, mais c'est un très chouette concurrent que j'aime beaucoup. Sur les cours de cuisine, après, il y en a un peu au Ritz encore, il y en a encore un peu chez quelques acteurs, mais il n'y a pas de réseau organisé de cours de cuisine. Après, sur le conseil aux marques, ça, on est
Là, il y a du monde, agences, bien sûr.
150 agences, mais on est les seuls à avoir 30 chefs salariés, non ? Donc, quand on fait du conseil culinaire, on sait de quoi on parle.
Ouais. Tu passes par des agences ou tu travailles en direct avec
les
marques ?
Les deux, mon général. Il y a des agences qui nous pitchent pour des marques, il y a des marques qui nous pitchent en direct.
Directement.
Et puis, sur la formation pro, alors on a quelques concurrents sur la formation pro au CAP, en digital. Je ne parle même pas des CFA qui, eux, sont des concurrents en présentiel. Hein. Mais on n'a pas à ce jour de concurrents identifiés en formation pro pour les grands groupes en B2B. Donc voilà, là on s'éclate bien, on a du boulot. On a du boulot. C'est top.
Je voulais revenir sur les chiffres.
Ouais, et donc rentabilité, on n'a pas parlé beaucoup de rentabilité. Est-ce que
honnêtement, ce n'est pas un critère parce que dès qu'on a 3 sous, on le réinvestit dans autre chose. Donc, vous dire que je fais combien, 500 ou 600 000 euros d'EBITDA, ça a pas beaucoup de sens parce que c'est vraiment ric-rac pour jamais être en cash flow négatif, mais je cherche pas à faire du profit, c'est pas du tout le, enfin, je cherche pas à faire du profit. Je cherche toujours à faire du profit parce que c'est ce qui veut dire.
Bien sûr,
que t'en vis. Dès que j'ai 3 sous, je le réinvestis parce qu'on a tellement de projets, tellement d'ambitions de développement
la formation pro, la formation digitale, c'était des gros investissements, ça.
Oui,
parce que quand même, il y avait 180 heures de formation, tu m'avais dit.
Pour la cuisine, la même cuisine. Chose pour la pâtisserie.
Ouais, ça.
Ouais, c'était un budget de production.
Vous avez créé un studio, une cuisine studio.
On l'avait déjà parce qu'on faisait nos cours de cuisine en ligne pour le grand public.
Mais, c'est où ça, c'est dans le 8e?
C'est à Rueil-Malmaison. Rueil, on a un atelier de formation pro présentiel, plus les studios de photos et de vidéos.
Des gens qui veulent.
Pas du tout.
Non.
Jamais, parce qu'on est toujours.
Vous l'occupez tout le
temps. Et puis Rueil, c'est aussi l'arrière-cuisine de ce qu'on appelle chez nous l'atelier des chefs mobiles, c'est ce qui permet d'aller faire des cours de cuisine en dehors de nos murs et là, pour aller jusqu'à 1000 ou 2000 personnes. Notre record, c'est 943 personnes qui ont cuisiné ensemble au pavillon Baltar.
Énorme.
C'était une boîte 940 de sécu, une boîte de nettoyage industriel, tous les collaborateurs. On leur a fait un énorme challenge culinaire.
Là, il faut du matériel.
Là, il faut du matos. Ouais. On en avait loin un peu, parce qu'on n'a pas tout. Il faut surtout 73 chefs.
Pas loin du record du monde.
73 chefs qui avaient chacun 12 personnes de l'entreprise avec eux. Ouais. Un économat géant, 2h30 pour faire 250 pièces cocktail, 200 pièces salées, 50 pièces sucrées, parce qu'ensuite, ça servait de déjeuner à tout le monde. Donc, c'était énorme. Ça, c'était vraiment fabuleux.
Ça me fait penser, je te disais, cette semaine, j'ai regardé un documentaire sur la Belle Époque. Il parlait de l'exposition de 1900,
ouais.
Où ils avaient organisé les présidents à l'époque, je ne me souviens plus plus qui il est. Il avait organisé un dîner pour les 25 maires des France.
Ouais.
Et donc, j'ai vu des photos d'époque. Et c'est juste des tables hyper longues. Je me suis dit, mais en cuisine, c'était comment?
Il y avait combien de personnes, tu me disais?
25 000 maires.
25
000 maires, effectivement, ça fait du monde. Moi, mon rêve est d'organiser le plus grand cours de cuisine du monde. Donc,
mais là, tu t'es pas
si parmi nous. Si parmi nous, si, parce qu'il y a un Chinois qui a organisé un truc avec 4 000 gugus sur la muraille de Chine.
C'est 4 000 que tu dois dépasser, alors?
Mais nous, on fera 1500, 2000 personnes, je pense, physiques. Et puis, on fera en même temps
en
live en ligne.
Connecté, mais c'est ça.
On va faire 10 000, 15 000,
2019, 2020.
S'il y a des marques, s'il y a des sponsors, s'il y a des mécènes que ça intéresse.
Pareil, on va militer.
Contactez-moi, je serais ravi de répondre.
Ou des bénévoles.
Non, mais là, il y a une super expo qui vient d'ouvrir. Je fais un peu de pub parce que j'ai rencontré le commissaire l'autre jour. Je mange donc je suis, qui vient d'ouvrir au Club. Alors, on sent que c'est une préoccupation majeure des gens de savoir quand même ce qui se met dans la bouche.
Bien sûr.
Donc, continuons à capitaliser là-dessus, quoi.
C'est dans le vrai, là-dessus, super. On parle de la suite.
Et les équipes, c'est juste cette partie-là, avant de parler de la suite. C'est quand même 117 personnes, il y a du monde à gérer. Comment ça se passe, en fait?
Beaucoup d'équipes dans les ateliers, par définition. Donc on a,
les grosses, c'est les équipes d'ateliers.
C'est les équipes
au
d'ateliers.
Au siège, vous êtes combien?
11 ateliers moins 3 en franchise qui ne sont pas à nous, ça fait 8 fois 6 personnes en moyenne. Ça fait déjà 50 personnes qui sont dans les ateliers, à peu près.
D'accord.
Vous avez un peu plus. Et puis après, oh non, ça devait même faire plus que ça. Ah ben non, ça fait plus que ça. Il devait plutôt 65 ou 70 dans les ateliers. Et puis une trentaine au siège qui travaillent à la fois donc sur la partie consulting, sur la partie conseil pour les marques, sur la partie iChef Pro qui commence à être maintenant une assez grosse BU. Et puis le market, la finance, les RH qui sont transverses.
Donc ça va vite.
Donc c'est à peu près tous les profils. Je suis évidemment le plus vieux, le ou la plus jeune doit avoir 20 ans. Et voilà, ça fait un joli écart type.
Les chefs, c'est des chefs que t'as formés ou
les
non,
chefs,
comment tu les recrutes,
les chefs, il y a ceux qui travaillent chez nous à temps plein, une trentaine à peu près, une 35 à peu près. Dans les ateliers, on a deux chefs résidents à temps plein pour assurer toute la qualité et la continuité des cours. On en a aussi donc à l'atelier des chefs mobiles sur iChef Pro et tout. Et puis on a des chefs extra qui viennent à la pige pour faire des cuisines thématiques. Ouais, quand on fait de la cuisine thaï ou de la pâtisserie, il vaut mieux un chef thaï ou un pâtissier. Et on les forme. Alors ils arrivent déjà avec un gros CV.
Avec une expérience dans des cuisines.
Un gros CV, et nous, on leur impose, on les forme sur 4 mots, l'éloge de la simplicité dont on parlait.
Ouais, c'est ce qu'on a vécu là tout à l'heure.
Je leur demande pas de faire du homard thermidor et du lièvre à la royale. Je m'en contrefous, ça, c'est pas le thème. Je préfère qu'ils fassent une très belle recette de spaghetti carbonara et qu'ils l'expliquent bien et qu'ils expliquent comment on fait une bonne spaghetti carbonara. Donc ça, c'est l'éloge de la simplicité. Et puis après, trois mots, fun, learn, well-being.
Ouais.
Faut qu'on s'amuse, c'est ce qu'elle nous a dit Vanessa.
Ouais, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu.
Faut qu'on apprenne et faut qu'on réalise que tout ce qu'on a mis dans notre bouche, c'était sur la table. D'accord. Alors, moi, il y a quelqu'un qui dit, ah, quand même, il y a beaucoup de beurre. Ok, finalement, il y avait 200 grammes de beurre, on était 10, 20 grammes par personne. On va pas s'énerver, quoi. Bon, et en tout cas, on explique, c'est important.
Et ça dure combien l'onboarding, par exemple, d'un chef qui arrive au châtelier des chefs? C'est quoi, une semaine de formation, deux semaines de formation?
Non, il faut un peu plus que ça, parce qu'au bout de 15 jours, il est capable de donner des cours. C'est au bout de...
Ce sont des chefs qui viennent avec un parcours en cuisine, mais pas un parcours en formation.
Il y en a qui ont des parcours en formation, mais le cours d'une demi-heure, c'est space quand même. Hein.
Oui, il faut y aller vite.
Il faut y aller. Hein,
ouais.
Le secret, c'est que le chef doit tout le temps parler. Parce que s'il parle
pas, c'est pas le même métier d'ailleurs. Si, chef en cuisine, exactement. Là, il est en contact. Un chef, il a pas l'habitude d'être en contact.
Et non seulement ça, mais c'est pas le même métier, mais en plus c'est pas le même rythme. Les chefs de cuisine, ils ont toute leur mise en place le matin, ce qui fait que même s'ils se sont pris une race la veille, qu'ils font leur mise en place. Là, nous à 9h30, il y a un premier cours. Hein. Donc le gars qui s'est pris une race la veille, ça se voit vite.
Ouais.
D'accord. Donc dès 9h30, il doit être communicant, il doit être technique, il doit être sympa, il doit être voilà. Donc
c'est un autre métier.
Du coup, on
parle de la suite.
Parler de la suite, même si on a couvert quelques sujets déjà avant.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, une question qu'on n'a pas posée, un
non,
sujet sur lequel tu aimerais
appuyer?
On
a été assez exhaustif.
On est déjà
à
55 minutes, donc pas mal.
On a été assez exhaustif et en effet, ce virage stratégique. J'aime pas tellement le mot virage parce que le virage, ça voudrait dire qu'on laisse tomber l'autre partie. Non.
C'est dans la continuité quand même.
On a toujours nos ateliers et je le disais, moi j'ai toujours un rêve enfoui, non achevé, d'aller planter quelques drapeaux de l'atelier des chefs dans quelques grands pays. Parce que je pense que c'est aussi une partie de notre mission. Maintenant, on voit que la formation pro digitale, c'est un business qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup d'avenir, qui est aussi internationalisable, hein, parce ouais. que
oui.
dans
oui,
les pays que je sais pas,
c'est ça que tu vas
bien
exactement.
Sûr. Donc,
il y a un exemple là.
Mon rêve, ce serait que d'ici 2022, effectivement, comme on l'a mis dans la fiche de poste, on fasse 9-10 millions de formations pro, que ça aille rapporter un peu d'argent, et qu'avec ce petit peu d'argent, on aille prendre des risques sur 1,5 million d'euros en Chine, 1,5 million
ouvrir
d'euros.
Ouvrir des ateliers logiques, tu peux les faire
accompagner,
partir d'ici.
Non, mais accompagner un franchisé, tu vois, accompagner quelqu'un qui se lancera en master franchise.
Il y a un exemple, c'est un média qui est apparu avec l'émergence des Facebook, s'appelle Chef's Club, je vous en ai parlé. Ils font des recettes qui, voilà, on peut avoir notre avis par rapport à leurs recettes. Mais leur modèle.
Beaucoup de fils de fromage, quoi, par exemple.
Mais pourquoi ? Parce que ça a été étudié qu'il y a un engagement très fort. En fait, c'est une marque qui a été créée pour les réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça reste une cuisine assez particulière.
Pas très sur le healthy.
Non, on n'est pas du tout dans le
mais
healthy.
Ce que je veux dire par rapport à eux, c'est qu'ils ont des studios à Paris, ils enregistrent à Paris un chinois, un portugais, un français, un espagnol, et ça leur permet d'avoir des audiences massives, des millions au Brésil, des millions au Mexique. Donc à la limite des mains, moi je pense au Brésil que je connais un peu mieux, moi ravi d'être au Brésil, d'apprendre d'un chef brésilien mais qui est basé à Paris, ça donne déjà de l'allure, je pense que ça peut être une façon d'aller à l'étranger.
Donc typiquement la formation pro est internationalisable, pardon. Et donc peut générer des revenus qui nous permettront un jour d'avoir des ateliers. Donc en tout cas, voilà, ça fait 15 ans et on a l'impression avec François et Jean-Seb que cette année qui a été assez clé pour nous dans ce pivot stratégique, c'est le démarrage d'une nouvelle aventure de 15 ans qui va être au moins aussi excitante que la première.
On sent qu'il y a du potentiel.
Avec une start-up dans l'entreprise, avec toutes les équipes qui sont vachement alignées. Enfin, non, c'est dingue.
Et quels sont les challenges liés à ça? Parce que quand même, s'il y a un changement de culture, et ça se dématérialise quand même. Comment tu vois l'évolution de ça sur les 5-10 années à venir?
Il y a plusieurs questions. Alors déjà, nous, on a fait le choix d'être en B2C et en B2B. Certains ont fait le choix d'être qu'en B2C. Donc, il faut qu'on assume ce choix et qu'on soit aussi bon sur les CAP que sur les formations des gens dans les entreprises. Mmh. Ensuite, est-ce qu'on couvre tous les métiers de bouche? Est-ce qu'on couvre aussi d'autres métiers artisanaux? L'autre jour, quand j'étais sur le campus d'HEC, il y a des parents qui me disaient « Ah ouais, génial, votre diplôme en cuisine, quand est-ce que vous nous faites la même chose en menuiserie ?»
Bon. Tout à l'heure, tu parlais dans ta vision de marque d'aider les gens à se réaliser.
Exactement.
En effet, ça peut être au-delà de la cuisine.
Ça peut être dans d'autres métiers. Mmh. Et puis après, il y a l'international.
Ouais.
Et l'international, sky is the limit là aussi. Hein. Donc, c'est là que j'ai envie de dire que c'est là qu'un peu tout se joue. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout faire. Il ne faut pas se tromper. Il faut faire les bons choix qui vont être scalables et rentables. Voilà, mais il vaut mieux avoir trop de tentations que pas assez.
problème de riche.
Quelle est ta vision si tu dois imaginer Télé des Chefs d'ici 10 ans? Tu le vois comment en fait, idéalement?
Il y a 15 ans, je disais que je rêvais que la Télé des Chefs soit la marque de référence du bien manger dans le monde. Globalement, j'ai pas beaucoup dérivé. Je crois véritablement qu'on a le potentiel. Et après, ça peut être en licence de marque sur des ustensiles aussi, sur des produits, que sais-je. Enfin, tout est possible. Mais je voudrais que quand les gens voient l'atelier des chefs, ils se disent, ça va être bon. Et d'ailleurs, ce logo, on l'avait conçu, il va évoluer, mais il va garder des caractéristiques, puisque c'est goûter et approuver le rond rouge, c'est goûter c'est et label. Approuver par l'atelier des chefs, quoi. Donc ça restera, voilà. On a ouvert les champs. Mais la marque de référence du bien manger dans le monde, ça me va.
Très bien.
Là, on approche de l'heure. Enfin, on vient juste de dépasser l'heure. Donc, je pense qu'on ne va pas tarder à poser les questions de conclusion.
Ouais.
Sur l'entrepreneuriat, justement, sur l'expérience entrepreneuriale. Je crois que tu as écrit un livre, d'ailleurs, sur la création d'entreprise.
Avec François.
Et
on fait tout ensemble.
Si tu avais justement un conseil à communiquer à un entrepreneur.
Ce qui est assez marrant, c'est que moi, je n'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme. Hein. L'Oréal, Nestlé, c'est de l'intrapreneurship, mais pas tellement de l'entrepreneuriat. Il a fallu que je m'associe à un vrai entrepreneur, voire deux, parce que j'en sais aussi beaucoup, pour choper le virus. Maintenant, je m'y éclate à fond. Je ne sais pas si je serai capable de relancer une autre boîte, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même... Waouh, c'est de l'énergie, etc. Un conseil... D'abord, il faut avoir la patate. Honnêtement, il faut avoir de l'énergie. Et puis, il faut que le cercle proche soit à fond dans le projet.
Oui, voilà.
Moi, j'ai eu l'immense chance, depuis 15 ans... À l'époque, mes enfants étaient petits, on rentrait de 5 ans d'expat, good life, hyper agréable, etc. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un petit appart à Paris, sous la pluie avec les crottes de chien sur les trottoirs. Et il fallait taper dedans. et
tu comptais femmes, pas tes heures,
femmes ouais. et enfants ont été exemplaires dans l'accompagnement, dans le soutien du projet. Ben, je pense que c'est ça qui fait que d'une manière ou d'une autre, tu es plus serein. Alors, le degré de sérénité, il est juste lié au degré de trésor. Donc, ouais,
tu as eu des moments difficiles, je suppose, sur cette. Tu peux nous parler
de Londres,
vos échecs.
On a fait Londres, Londres a failli bouffer le cash. En 2014, de nouveau, en 2015. Alors qu'on venait de lever des sous, je sais pas ce qui s'est passé, des fermetures d'ateliers qui nous ont coûté plus cher que prévu, un marché qui repartait pas, etc. Non, des moments difficiles, on en a eu, et c'est ce qui permet de profiter encore mieux des moments sympas.
C'est clair. Et quels étaient les moments les plus sympas bah, je suppose que les premiers millions des francs.
Il y en a eu tant. Il y a eu ce premier cours du premier jour, le dos de cabillaud, la queue au miel de soja, polenta crémeuse aux champignons, ou quand même,
tu te souviens,
on avait, on a refait le même menu à chaque ouverture, parce qu'on est comme les joueurs de foot.
Bah voilà, il faut,
c'est bien, c'est l'ADN.
Non, mais et c'était l'aboutissement de 2 ans et demi de travail, hein, 10 décembre 2001, 12 juillet 2004, il y avait du long quand même. Donc, j'ai vécu une émotion, parce que c'était à la fois un concept qui sortait de terre, c'était, ça y est, je devenais restaurateur, ce qui était quand même un rêve depuis très longtemps. Donc ce jour-là, évidemment, après, il y a eu des tonnes de bons moments. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il y a eu des tonnes de moments plus compliqués. On ne se souvient que des bons. Mais ils se lisent dans le paysage tellement il y en a eu. Quoi.
Tant mieux.
Ouais,
et juste pour revenir un peu sur la partie bouffe, parce qu'on a démarré avec ça, est-ce que tu as des bons plans bouffe à partager avec ceux qui nous écoutent? Des choses, des petits restos que tu aimes bien, des choses plutôt confidentielles.
Alors, objectivement, je suis nul. Je suis nul. J'ai heureusement des équipes à l'atelier qui ont des listes de restos.
Bon resto, bon plan.
Sympa, ouais. Je tape dedans parce que moi, je suis nul. Moi, je
ou alors, des produits. Et des
non,
produits.
Mais au risque d'être toujours un tout petit peu monolithique dans mon système de pensée, c'est tellement sympa de cuisiner pour les autres. De faire, de transformer, et encore une fois je ne demande pas de faire des choses trop compliquées hein. Je prends toujours cet exemple, mais une bonne coquillette jambon avec une béchamel un peu parfumée bien servie dans une nonnette comme on a utilisé tout à l'heure avec un petit brin de ciboulette sur le dessus, ça peut être un plat qui vaut un restaurant peut-être pas étoilé, mais un restaurant sympa. Et puis quand on fait pour les autres, ben, si on se donne un peu de mal, on se valorise, ça fait pas de mal. Si on se donne un peu de mal, on valorise les autres et ça fait du bien. On est dans un cercle vertueux, objectivement. Moi, la bonne adresse que je suggère, c'est celle de chacun. C'est l'adresse de chacun pour faire la cuisine et recevoir.
Mais Atelier des Chefs à midi, je trouvais ça, moi, c'est un bon plan, bouffe.
Et puis, bien sûr,
pour le déjeuner.
Nos adresses d'Atelier des Chefs, on va faire un peu de pub. Nos adresses d'Atelier des Chefs sur atelierdeschefs.fr. Vous avez tous les ateliers où vous avez tous les menus qu'on fait tous les jours. Et honnêtement, que vous viendrez cuisiner, vous viendrez apprendre à cuisiner avec nous.
Est-ce qu'on pourrait donner peut-être une petite carotte à nos auditeurs qui souhaitent faire un petit cours en ligne, on peut leur offrir, je ne sais pas, quelque chose, une réduction au moins gratuite. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait imaginer peut-être?
Ouais, on pourra tout à fait imaginer. Alors déjà, de toute façon, les cours en ligne, le premier mois est gratuit, donc ça, je suis super,
déjà pas mal.
Super heureux.
Moi, je me suis inscrit avant-hier.
Super heureux de leur offrir le mois gratuit. Ce que j'espère, c'est qu'ils resteront après. Tous ceux qui m'enverront, non, on va pimenter un peu le truc. Tous ceux qui m'enverront, et vous pourrez mettre mon adresse mail en bas du podcast, ou je sais pas où, qui m'enverront à mon adresse mail leur recette préférée, ils auront une petite carte cadeau pour venir faire un cours de cuisine.
Bah, top,
mais il faut qu'il y ait un petit challenge.
C'est très sympa. On va mettre ton email.
Vous mettez mon email et je serai ravi de recueillir plein de belles recettes.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nicolas.
C'était génial.
C'est super intéressant.
Merci pour ton ouverture, générosité.
Beaucoup de choses.
Merci pour cet échange.
J'ai appris à mieux ciseler quand même la coriandre
pour la dégustation et le cours de cuisine qu'on a vécu
et à refaire chez soi, bien sûr.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
à très bientôt.